Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu. On fait depuis quelques semaines une série sur le Sermon sur la montagne. On est arrivé au chapitre 7 et on va voir dans ce chapitre les versets 7 à 12, verset 1 à 12. Et je fais la lecture, Matthieu chapitre 7, 1 à 12. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de l'œil de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ça semble vraiment, dans l'air du temps, cette parole de Jésus, ne jugez pas. Ne jugez pas. Notre société a en horreur toute forme de jugement moral. Notre société a horreur toute évaluation de son comportement. À l'école, on cherche à remplacer les notes par des couleurs ou par des sourires plus ou moins larges. La mode dans l'éducation des enfants, c'est de les laisser faire ce qu'ils veulent. Ne jugez pas. Ils décident s'ils sont fatigués et s'ils doivent aller se coucher. Ils choisissent ce qu'ils vont manger et quand ils vont manger. Notre société se veut très tolérante, très permissive sur le plan moral. On dirait que la seule chose qui est immorale ou est condamnable par elle, c'est de porter un jugement de valeur sur elle, justement. Alors, pourquoi cette idée de ne pas juger trouve-t-elle un écho aussi dans nos propres cœurs ? Je crois que d'un certain côté, on voudrait qu'il n'y ait pas de jugement. Parce que, au fond, nous savons que nous sommes coupables et on aimerait bien échapper à la condamnation. D'un autre côté, nous voudrions qu'il y ait un jugement parce qu'on a été aussi victime de certaines choses, de certaines injustices. Et on aimerait bien qu'il y ait réparation. Alors, y aura-t-il un jugement ? N'y en aura-t-il pas ? Je vais lever le suspense tout de suite. Jésus affirme ici, et dans tout ce chapitre 7, qu'il y aura un jugement. Regardez le verset 2, il dit « Car on vous jugera ». Bon, là, les choses sont claires. On vous jugera du jugement dont vous jugez. Il y aura donc un jugement. Et au fond, ça nous soulage de savoir qu'il y aura un jugement parce que ça signifie qu'il y a une justice parfaite. Au final, chaque homme, chaque femme, puissant ou misérable, comparaîtra devant Dieu, le juste juge. Et ça doit avoir une certaine influence sur notre manière de vivre ici-bas, et en particulier dans nos relations fraternelles, les uns avec les autres. Comment est-ce qu'une union d'église comme celle de l'AEBLF a pu vivre 100 ans dans une certaine harmonie? Est-ce qu'elle n'a fait que ne pas juger, ou est-ce qu'elle a su trouver certaines méthodes pour juger? Comment est-ce qu'on va vivre ça en Église? Je vous propose deux points. Le premier, c'est de ne pas juger. Cessons de critiquer. Et le deuxième, commençons à aimer. Cessons de critiquer. Regardez ce que Jésus dit, ne jugez pas. Est-ce à dire qu'il ne faut pas exercer nos facultés envers les autres, nos facultés critiques envers les autres, fermer les yeux sur ce que l'on sait mal, renoncer à tout reproche, toute correction, accepter la vérité et le mensonge de la même manière? Est-ce qu'il nous faut éviter tout jugement de valeur? Non. Dieu nous a créés à son image, capables d'exercer des jugements de valeur. Au verset 6, il dit « Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur que… » etc. Donc, il nous demande d'exercer notre jugement pour reconnaître une chose qui est sainte ou une chose qui ne l'est pas. Et puis de reconnaître des gens qui ont un comportement plus bestial que humain. Aussi, au verset 15, il nous dit que nous devons nous garder des faux prophètes. Et là encore, s'il nous faut garder des faux prophètes, Christ nous demande d'exercer un jugement sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, sur ce qui est dit et sur ce qui ne l'est pas, ce qui est injuste. J'ai dû remplir, il y a quelques jours, l'évaluation de notre stagiaire. Est-ce que j'aurais dû simplement renvoyer l'évaluation en disant « Matthieu 7.1, ne jugez pas !» En quoi ça l'aurait aidé? Dieu s'attend bien à ce que nous exercions notre jugement. En 1 Samuel chapitre 2, il y a ce récit qui nous est rapporté sur le mauvais comportement des fils du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur s'appelait Élie, ses fils étaient Ophni et Phiné, et ils ne connaissaient pas Dieu, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas Dieu personnellement. Ils étaient des prêtres, ils servaient dans le tabernacle, mais leur cœur n'y était pas. Ils prenaient des choses saintes qui appartiennent exclusivement à Dieu pour eux-mêmes. Et puis même, ils abusaient de leur autorité pour pouvoir abuser de certaines femmes qui venaient servir devant le tabernacle. Ils couchaient avec elles. Élie apprend tout cela et il ne prend aucune mesure disciplinaire à l'encontre de ses fils. Dieu dit « D'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» Dieu juge Élie responsable de n'avoir pas corrigé ses fils. Et le jugement, ce sera la mort prématurée des membres de sa famille et en particulier de ses deux fils, Ophni et Phiné, qui vont mourir le même jour, frappés par Dieu. La raison qui est invoquée, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Dieu aurait voulu que Élie exerce un jugement de valeur sur ses fils. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il y a les mêmes attentes de la part de Dieu pour son peuple. Paul dénonce la débauche tolérée dans l'église de Corinthe. Un homme vit dans le désordre sexuel et tout le monde le sait et personne ne dit rien. Au chapitre 5 et au verset 2, il dit « Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Paul, il juge ici. Il rappelle qu'un tel homme devrait être chassé de l'Église, livré à Satan, c'est vraiment exclu, livré à son propre péché. Et il leur dit ici, et vous êtes plutôt enflé d'orgueil, c'est-à-dire que vous vous prenez, vous n'êtes plus au service de l'Église, vous n'êtes plus au service de Dieu. Vous vous prenez pour les patrons. Vous devriez faire ce que Dieu demande de faire dans une pareille situation. Paul rappelle aux chrétiens qu'ils devraient pouvoir régler aussi des différends. Dans le chapitre suivant, au chapitre 6, il leur dit au verset 2, de 1 Corinthiens 6, verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, les chrétiens? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. » Ils avaient des querelles dans l'Église. Et au lieu de régler cela à l'intérieur de l'Église et de trouver quelqu'un suffisamment sage pour pouvoir régler et amener une réconciliation, eh bien, ils prenaient des avocats qui étaient complètement étrangers à la vie de l'Église. Alors, que veut donc dire Jésus par « ne jugez pas » ? Eh bien, c'est l'illustration qui suit dans les versets 3 à 5 qui nous éclaire. Et les enfants, je voudrais attirer votre attention aussi à quelques instants. Imaginez que voilà, cet après-midi, vous partiez jouer dans le champ d'à côté de chez vous et c'est un champ avec tout ce qu'il a plu, c'est de la boue, mais vous voyez la gadoue, quoi, bien. Alors vous mettez vos bottes, et puis là vous marchez dans la gadoue, il y en a partout. Et puis votre grand frère, à un moment, il perd sa botte dans la boue. Et là, il est là, et puis il tombe de tout son long, là. Flatch, la tête dedans. Pouf. Et là, il se tourne vers vous, il dit « Ma botte, ma botte !» Alors vous plongez les mains dans la terre, là, vous arrivez à sortir sa botte, vous lui ramenez, et à ce moment-là, votre frère, là, il en a plein, il en est partout, quoi. Il a les yeux qui sont collés par la boue, il est couvert, il en a les mains, c'est juste de la boue, quoi. Et puis vous secouez vos mains comme ça, et puis là, pouf, vous mettez un petit peu de boue dans l'œil. Alors, elle est là, c'est ça. Ah, j'en ai dans l'œil. Et à ce moment-là, votre frère se relève, il est couvert, il arrive à peine à ouvrir les yeux, il dit « Attends, je vais t'aider. » Il dit « Non, surtout pas, ne m'aide pas. Va d'abord te laver les mains si tu veux toucher à mon œil. » Et en fait, c'est pareil ce que Jésus dit avec le péché. Quand on veut reprendre quelqu'un, quand on veut essayer de l'aider à se débarrasser de son péché, il dit « Si t'es pire que lui, ne le touche pas, ne lui parle même pas de son péché, ne le juge pas. » Ça serait un comportement hypocrite. Les enfants, vous pouvez reprendre vos affaires maintenant et les parents, vous me remercierez plus tard de cette belle illustration. Au fond, qu'est-ce que Jésus dit ? Jésus, il s'élève contre l'hypocrisie et l'attitude accusatrice qui consiste à démolir les autres afin de paraître meilleur soi-même. Il ne nous appelle pas à fermer les yeux sur les actes d'autrui, mais à faire preuve d'humilité et de discernement. Il condamne un jugement hypocrite qui est dur avec les autres et doux avec soi-même. Alors pourquoi est-ce que nous avons tendance à juger de cette manière ? Pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à être dur avec les autres et plutôt doux avec nous-mêmes ? C'est souvent pour nous protéger. En étant dur avec la faute des autres, on laisse penser qu'on est complètement étranger au péché de l'autre. Et on finit par le croire nous-mêmes. Vous vous rappelez de cette histoire en 2 Samuel chapitre 11 ? Le roi David, qui avait plusieurs femmes, a commis un adultère avec la femme d'un de ses plus vaillants soldats, plus fidèles soldats, qui est en train de combattre pour lui à ce moment même, et lui, il couche avec sa femme. La femme tombe enceinte. Alors David, pour cacher son péché, il va commanditer le meurtre d'Uri, le mari. Une année se passe. David a recueilli la femme et l'enfant chez lui. Et Nathan, le prophète, lui rend une petite visite de la part de Dieu, l'Éternel. Et dans 2 Samuel, je lis au chapitre 12, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. » Vous vous souvenez que David, c'était un berger, hein, ça lui parle ça. « Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. » Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi d'Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein la femme de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. » Vous avez remarqué comment il a réagi, David, au moment où il entend l'histoire. Il est saisi à nouveau par la pensée de la justice, le sens de la justice aiguë. Il dit, c'est abominable ce qu'il a fait. Il doit mourir, cet homme-là. Il mérite la mort. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe dans nos propres cœurs. Quand on veut cacher une situation de péché, on a tendance à la voir chez les autres et à la condamner chez les autres fortement. Jésus condamne cela, c'est hypocrite. On poursuit trop souvent une espèce de doctorat dans le péché d'autrui, alors qu'on n'a pas le niveau grande section dans notre propre péché. Par exemple, je peux critiquer l'orthodoxie théologique de la prière de mon frère. Je me dis, oh là, là théologiquement, ce n'est pas très juste là, ce qu'il a dit dans sa prière, ce frère. Mais si je le fais alors que ma vie de prière personnelle avoisine le zéro, alors je suis un hypocrite. Je suis juste un hypocrite. L'autosatisfaction, c'est l'art d'être toujours plus dérangé par le péché des autres que par le mien, a dit quelqu'un. Ne jugez pas de cette manière parce qu'on vous jugera aussi alors de cette manière. Peut-être s'agit-il ici, au verset 2, du jugement des autres qui nous traiteront sans miséricorde, si nous n'avons pas fait de miséricorde. Mais certainement qu'il s'agit aussi du jugement de Dieu. Si nous ne sommes pas miséricordieux, nous montrons par là que nous n'avons pas connu la miséricorde de Dieu. Matthieu 5, verset 7, il avait dit dans les Béatitudes, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Parce qu'ils manifestent qu'ils ont connu la miséricorde de Dieu. Ils l'ont reconnu, ils l'ont appris pour eux-mêmes. Si j'ai vraiment compris comment Dieu m'accepte parfaitement en Jésus-Christ, non pas sur la base de ma manière de vivre, mais simplement sur la base de son sacrifice pour moi à la croix, je n'ai plus besoin de dénigrer les autres pour paraître meilleur. ni de me vanter, comme s'il fallait que je fasse la démonstration que je suis quelqu'un de bien, que j'existe, que je suis digne. Je n'ai plus besoin de cela. Voyez-vous, l'Évangile, il nous préserve de cette critique que j'utilise pour m'élever moi-même, pour paraître un peu mieux que ce que je suis. On a besoin de se souvenir que c'est Dieu qui juge. Nous serons jugés par Dieu. Tous. Tous nous serons jugés par Dieu. Tous nous comparaîtrons devant lui. Et même si en tant que chrétiens, nous n'avons pas peur d'être condamnés, il dit il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Christ a pris notre condamnation, parce qu'il a déjà payé pour nos fautes. Néanmoins, nous devrons rendre compte devant Dieu de notre administration et de toute parole vaine. Dieu n'est pas dupe. On ne le trompe pas. Dieu est le seul juge parce que Dieu est le seul qui puisse voir au fond des cœurs. Et quand on commence à juger nos frères, à les critiquer, on se place en tant que juge. Mais on n'est pas qualifié pour cela. Par exemple, si des gens arrivent en retard le dimanche matin dans notre rencontre, peut-être qu'il y a un problème de motivation, peut-être qu'il y a un problème de discipline personnelle, mais peut-être pas. Et peut-être que 10 fois, il y aura un problème d'ordre de discipline, et que la 11e fois, ce sera un autre problème, une autre situation. Je ne le sais pas. Peut-être la personne qui est en retard, c'est celle qui a appris, juste au moment où elle se mettait en route, le décès d'un membre de sa famille. Si elle arrive en retard et que je lui tombe dessus sur son problème de discipline, j'ai tout faux. Je vais faire un mal terrible. Si cette personne est passée prendre une personne âgée de l'Église qui avait du mal à se mettre en route ce matin-là et que ça m'a retardé, je vais faire plus de mal si je juge. Je ne suis pas habilité pour le faire. Je risque de me tromper. Alors qu'est-ce que je devrais faire? Certainement, je devrais accueillir la personne en retard avec le plus de grâce et de bienveillance possible. Si elle a besoin d'être consolée, alors mon accueil chaleureux y contribuera, y participera. Si elle a besoin de se discipliner, la grâce qu'on lui manifeste lui donnera la bonne motivation pour le faire. Ne jugez pas selon l'apparence, a dit Jésus, mais juger selon la justice. On a véritablement besoin d'apprendre ces choses-là. Jésus ne dit pas que nous ne pouvons jamais reprendre quelqu'un, qu'on ne peut jamais ôter la paille dans l'œil de notre frère, mais de ne pas le faire avant d'avoir ôté notre propre poutre. Au verset 5, il dit « ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Oui, nous sommes appelés à nous entraider dans notre transformation à l'image de Jésus-Christ. On est appelés à ôter la paille de l'œil de notre frère, parce que ça l'empêche de voir clairement comment marcher. Et l'Église, elle est vraiment précieuse dans ce domaine. Et pour le faire, je vais d'abord examiner mon propre cœur, reconnaître mes propres défaillances, mes luttes, et en être affligé. Alors, j'aurai l'attitude de cœur aimante, gracieuse, pour me mettre au service de mon frère, pour l'aider à avancer dans la sainteté, pour son bien et pour la gloire de Dieu, et non pour me sentir meilleur que lui. Au verset 6, Jésus dit, « Ne jetez pas, ne donnez pas aux chiens des choses saintes. » On est appelé donc à juger le mal et à le dénoncer. Mais parfois, les personnes ne sont pas disposées à entendre. C'est là qu'il nous faut du discernement. Vous avez beau avoir l'attitude humble, qui convient, elles ne veulent rien entendre, elles ne veulent rien savoir. Elles méprisent même, ou elles vont mépriser les vérités de l'Évangile. Laissez-les. Vous n'êtes pas leur juge. Dieu s'occupera d'elles. On a besoin de sagesse. Ce qui fait certainement le lien avec les versets suivants sur la prière. On a besoin de sagesse et les versets 7 à 11 nous invitent à demander à Dieu. Et c'est notre deuxième point, beaucoup plus court. Lorsqu'on est conscient de notre propre faiblesse, lorsqu'on est conscient de la poutre qui est dans notre œil, on a besoin de Dieu pour l'enlever. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin qu'il change nos cœurs. Dieu utilisera peut-être un frère ou une sœur pour le faire. Alors nous aurons aussi besoin d'humilité. On aura besoin de douceur pour nous laisser reprendre. Pour aimer vraiment les autres, nous avons besoin de voir l'amour de Dieu pour nous, envers nous. Vous ne serez jamais patient envers votre frère avant de voir l'immense patience de Dieu envers vous. Vous ne traiterez jamais correctement le péché de votre frère avant de voir comment Dieu a traité votre péché et le sien à la croix. Jésus est le juste juge. Il juge toujours parfaitement et il est toujours parfaitement aimant. Il a condamné tout péché du juste jugement de la mort, mais il s'est offert lui-même et a porté notre condamnation par amour pour nous. Si Dieu vous utilise pour enlever la paille de votre frère, ou pour que Dieu vous utilise pour enlever la paille de l'œil de votre frère, vous aurez besoin d'amour, vous aurez besoin de sagesse, d'humilité, de douceur, parce que c'est une tâche délicate d'enlever une écharde, une paille dans un œil. Et d'amener une personne à délaisser son péché, à reconnaître ses erreurs, ses défaillances, c'est une tâche encore bien plus délicate. Et donc on a vraiment besoin de cette grâce, de cet amour. Dieu, il est notre juge, il est aussi notre Père qui nous aime. Et il veut nous donner les bonnes choses. Il le dit à plusieurs fortes, il dit à plus forte raison, votre Père qui vous aime, qui est parfait, vous donnera-t-il de bonnes choses à celui qui les demande ? Nous avons besoin d'amour, de discernement, de sagesse. Et sa promesse est là, elle est formelle. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dieu veut qu'on se saisisse de cette promesse, justement pour qu'on puisse s'approcher de lui. Il nous dit, je réponds à cette prière. Parfois, on n'est pas toujours sûr de savoir à quoi Jésus va répondre, s'il va répondre à notre prière. Mais si nous demandons ces choses pour le bien de nos frères, Dieu veut nous les donner. Il les donnera, la promesse, elle est formelle. Dieu répond, non pas parce qu'il ignorait jusque-là vos besoins, d'amour, de sagesse, de discernement, mais non pas non plus parce qu'il se laisserait finalement persuader à force de demander. Non, mais parce qu'en demandant, vous reconnaissez humblement votre besoin et vous disposez votre cœur à recevoir. John Stott, il dit ceci, « La prière est la manière que Dieu a choisie pour que ses enfants puissent exprimer leurs besoins comme signe de leur humble dépendance. » Vous avez remarqué, il y a une certaine persévérance aussi dans ce verset. Une certaine, il y a même, on pourrait dire, une progression dans l'intensité. Demander, chercher, frapper. Parfois, il faut du temps. Passer du temps devant Dieu pour se débarrasser de cet esprit de jugement, de l'irritation de nos cœurs envers quelqu'un, envers une situation. Et de prendre du temps dans la prière, c'est là où Dieu va travailler notre cœur. Si on lui demande plus de douceur, il va la donner. Si on lui demande pardon pour l'irritation de notre cœur ou une mauvaise colère, il va nous la donner. Et on a besoin de prendre ce temps, de demander, de chercher, de frapper à la porte du ciel. Au début de son règne, le roi Salomon, fils de David, a demandé à Dieu un cœur intelligent pour juger son peuple. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Parce qu'il se sentait tellement inexpérimenté, tellement jeune pour pouvoir prendre soin du peuple d'Israël et d'apporter, de le conduire dans des voies droites, de pouvoir régler leurs différends, amener des jugements. Et il a demandé à Dieu de la sagesse. Vous connaissez le jugement qu'il a rendu pour ces femmes. Deux femmes prostituées qui avaient eu un enfant chacune et dont l'un est décédé pendant la nuit. Au matin, elles se sont disputées l'enfant encore vivant. Et chacune disait, c'est mon enfant. Et alors, elles sont venues devant Salomon pour régler leurs différends. Et Salomon a dit, mais apportez-moi une épée. On va partager cet enfant. Et à ce moment-là, la mère de l'enfant a dit, non, ne faites pas ça. Salomon a dit, voilà la mère de cet enfant. Rendez-lui l'enfant. Waouh! La sagesse, le discernement, ça a été donné en réponse à la prière de Salomon pour pouvoir juger son peuple. C'est ce que Dieu veut faire pour nous aussi. Enfin, Jésus nous donne une clé pour juger correctement au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. On appelle ça la règle d'or. Jésus dit, c'est un résumé de la loi et de tous les prophètes. C'est bien plus fort que simplement de dire simplement ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Ça va beaucoup plus loin. Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Qu'est-ce que nous voulons que les autres fassent pour nous ? Nous voulons être aimés. Nous voulons que les autres nous disent la vérité. Mais nous voulons qu'ils nous la disent correctement, avec amour. Nous voulons que les autres prennent soin de nous. Nous voulons aussi qu'ils parlent en bien de nous, plutôt que nos oreilles bourdonnent ou siffle. Nous voudrions qu'ils nous montrent de la compassion lorsqu'ils nous reprennent, lorsqu'ils dévoilent une faute dans nos cœurs. Nous voudrions qu'ils aient de la clémence, de la douceur. Nous voudrions qu'ils nous pardonnent nos fautes. En fait, on voudrait qu'ils nous aident à grandir dans notre marche avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est tout ce que Dieu a fait pour nous. Et il dit ici, Jésus dit simplement, toute cette générosité que vous voudriez connaître de la part des autres, donnez-la. Ayez cette générosité envers les autres, cette générosité dont Dieu a fait preuve envers vous. En fin de compte, une seule chose peut vraiment déraciner l'hypocrisie de nos cœurs et la remplacer par un désir d'encourager. Enlever le désir de critiquer et mettre à la place le désir d'encourager. Une seule chose peut tuer un esprit de jugement. C'est vraiment l'humilité. Et l'humilité vient de la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Si je me souviens comment Dieu m'a traité, avec tellement de grâce, comment il me traite encore aujourd'hui, moi qui devrais être un expert et qui a tellement de mal à avancer. Si je me souviens de cela, alors dans mon cœur, je vais avoir la bonne attitude pour parler à mon frère. Alors la prochaine fois que vous commencez à monter au balcon, vous savez, c'est le balcon où on peut voir les gens comme je suis là, et oh, toi et toi, ça va pas. Si ça vous passe par la tête là, de monter à ce balcon pour juger vos frères, pendant que vous êtes en train de monter les escaliers, souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous, vous êtes un saint pécheur. Vous êtes un pèlerin en chemin. Vous êtes une belle œuvre, comme on l'a lu tout à l'heure dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Une belle œuvre, mais encore en chantier. Encore en travaux. Vous n'êtes pas encore arrivé. Et là, dans les escaliers, faites demi-tour. Descendez. Consacrez votre énergie à poursuivre votre propre croissance plutôt que de chercher des preuves que vous êtes meilleur que les autres. Mettez toute votre énergie à édifier les personnes, à bâtir les réputations plutôt qu'à les dénigrer. À les aimer en faisant pour eux tout ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous, parce que c'est ainsi que Christ a agi envers nous et que ça représente toute sa volonté, la loi et les prophètes. Que Dieu nous secoure dans cela, qu'il nous apprenne cela et que l'on puisse venir et demander, chercher, frapper pour réclamer tout ce qui nous manque, pour être une bénédiction pour nos frères. Prions. Seigneur notre Dieu, pardonne nos offenses. Pardonne ce sentiment de supériorité, ce désir d'être meilleur que les autres, parce qu'on voudrait être jugé par une loi. Mais cette loi nous condamne, Seigneur. Merci parce que tu t'es offert en sacrifice pour nos fautes, que le même sacrifice a été nécessaire pour me sauver, moi, que pour sauver mon frère. Et que si quelqu'un peut se tenir en ta présence, ça n'est pas parce que il vaut mieux que l'autre, mais simplement parce qu'il a placé sa confiance en toi, parce qu'il a été éclairé sur ses propres besoins. Seigneur, fais de nous une église qui s'encourage, qui s'édifie, qui peut-être qui ôte la paille de nos yeux, mais donne-nous de le faire avec toute la grâce, après avoir demandé, après avoir cherché, après avoir frappé longtemps, et avoir l'attitude qui convient pour reprendre, pour encourager. Et ça, non pas pour nous sentir mieux, mais pour que notre frère, notre sœur progresse et pour te glorifier, toi. Viens-nous en aide. On voit bien qu'on est tellement dur de cœur. Viens-nous en aide pour qu'on puisse vivre ces choses jour après jour dans ton Église. Que ton nom soit élevé et glorifié par Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voilà, je vous invite à vous lever. On va prendre un dernier chant. On va se rappeler justement que c'est Dieu qui a tout fait. Et comme l'a dit Vincent, on est encore en chantier, en travaux.